Annie, deuxième partie, chapitre 7. Pendant 4 dimanches, Annie avait vu le baron à Biarritz, mais ses sentiments n'avaient changé en rien. Elle en était toujours à l'indifférence, et quand sa mère, quand son père l'interrogeait, sa réponse restait la même. « Attendons. Qui te déplaît en lui ?»«
Rien. » »«
Alors, pourquoi ne me demandes-tu pas ce qui me plaît en lui ?»«
Je te le demande. » »«
Et je te fais la même réponse. » »«
Rien. » »«
Dans ces conditions, je ne peux dire que ce que je dis. Attendons. » Madame Barinck, qui désirait passionnément ce mariage et trouvait toutes les qualités au baron, s'exaspérait de ses réponses. « Crois-tu que cette attente soit agréable pour ce brave garçon ? Que veux-tu que j'y fasse ? Si elle lui est trop cruelle, qu'il se retire. Au moins, est-elle mortifiante pour lui ? Crois-tu qu'il n'a pas à souffrir de ta réserve, quand ce ne serait que devant le capitaine ? J'espère qu'il n'a pas pris le capitaine pour confident de ses projets. S'il l'a fait, tant pis pour lui. Accepterait-elle ? Refuserait-elle le baron ? C'était ce que le père et la mère se demandaient, et, comme ils désiraient autant l'un que l'autre ce mariage, ils prenaient leurs dispositions pour le jour où ils auraient à traiter les questions d'affaires et à fixer la dot. Puisque le baron avait 40 000 francs de rente, il voulait que leur fille en eût autant. C'était leur réponse à son désintéressement. Mais si ces 40 000 francs devaient leur être faciles à payer annuellement, ce ne serait que quand les améliorations apportées à l'exploitation du domaine produiraient ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire quand les terres défrichées seraient toutes transformées en prairies, ce qui exigerait 3 ans, au moins. En attendant, où trouver ces 40 000 francs? C'était la question que Barinck étudiait assez souvent, en cherchant quelle partie de son domaine il pourrait donner en garantie pour un emprunt. Un jour qu'il se livrait à cet examen dans son cabinet, qui avait été celui de son frère, il tira les divers titres de propriété, se rapportant aux pièces de terre qu'il avait en vue, et se mit à les lire en notant leur contenance. Pour cela, il avait ouvert tous les tiroirs de son bureau, voulant faire un classement qui le satisfit mieux que celui adopté par son frère. Comme il avait complètement tiré un de ses tiroirs, il aperçut une feuille de papier timbré qui avait dû glisser sous le tiroir. Il la prit, et comme au premier coup d'œil il reconnut l'écriture de son frère, il se mit à la lire. « Je sous-signais Gaston Félix Emmanuel Barinck de Saint-Christo, demeurant au château de Saint-Christo, commune de Hourtaux, Basse-Pyrénées, déclare, par mon présent testament et acte de dernière volonté, donner et léguer, comme en effet je donne et lègue, à M. Valentin Sixte, lieutenant de dragons, en ce moment en garnison à Chambéry, la propriété de tous les biens, meubles et immeubles, que je posséderai au jour de mon décès. À cet effet, j'institue mon dit Valentin Sixte, mon légataire à titre universel. Je veux et entends qu'en cette qualité de légataire, mon dit Valentin Sixte soit chargé de payer à mon frère Charles-Louis Barinck, demeurant à Paris, s'il me survit, et à sa fille Annie Barinck, une rente annuelle de 6 000 francs, la dite rente incessible et insaisissable. Je nomme, pour mon exécuteur testamentaire, la personne de Maître Rébénac, notaire à Hourtaux. Sans la saisine légale, et j'espère qu'il voudra bien avoir la bonté de se charger de cette mission. Tel est mon testament, dont je prescris l'exécution comme étant l'ordonnance de ma dernière volonté. Fait à Hourtaux, le lundi 11 novembre 1884, et après lecture, j'ai signé Gaston Barinck.